Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans Toute une vie. On la surnomme Mama Africa, une grande dame de la chanson dont la vie fut sans cesse peuplée d'épreuves douloureuses. À travers ses différents exils, elle devient le symbole des luttes contre la ségrégation raciale et pour l'émancipation de l'Afrique. En juillet 1963, elle intervient à l'ONU pour demander aux États de faire pression sur la politique d'apartheid sud-africaine. Sa cote s'envole aux États-Unis, elle joue pour Kennedy et elle embrasse le combat pour les droits civiques. Aujourd'hui, Elodie Maillot et Manouchak Fachaï vous proposent Myriam Makeba, 1932-2008, c'est toute une vie d'exil et de lutte pour la paix et la tolérance.
Myriam Makeba, elle représente le peuple noir en Amérique, le peuple noir aux îles de Caraïbes, le peuple noir en Amérique du Sud, le peuple noir en Afrique, l'Afrique du Sud, notre pays. Alors pour moi, elle n'est pas seulement une chanteuse internationale. Elle n'est pas seulement ma mère à moi-même, mais elle est la mère de l'Afrique.
Myriam Makeba, les ailes de l'exil.
Elle est quasiment morte sur scène. Myriam Makeba s'est éteinte la nuit dernière en Italie, juste après avoir donné un concert contre le racisme et le crime organisé près de Naples. La chanteuse sud-africaine avait 76 ans. Elle était surnommée Mama Africa.
Oui, il y a quelque chose de romanesque. Hein. Cette femme meurt en 2008, alors qu'elle vient de chanter, pendant qu'elle est en train de chanter pratiquement. Enfin... On dit que c'est la plus belle mort pour un artiste d'être en train de faire ce qui le pousse en avant depuis toujours.
Oui, Makeba est une des histoires les plus extraordinaires de ma vie.
Roberto Saviano,
parce que
journaliste et auteur de Gomorra.
Elle a consacré un concert à ma situation là-bas, à Castelvetro. Et la situation de la communauté africaine qui est là-bas. Quand elle a fini de chanter,
son plus bello,
pata pata. Plus beau morceau, Pata Pata. Elle est morte d'un infarctus.
Et così che io scrivo una lettera a journal,
comme ça que j'ai écrit une lettre au plus grand journal sud-africain en demandant pardon de quelque manière à la famille parce que je me sentais coupable parce que Myriam Makeba avait resté tant d'années en exil. Elle était morte loin de l'Afrique.
La risposta fu straordinaria.
La réponse fut extraordinaire.
Nostra madre è morta a Castelvolturno.
Était que notre mère est morte à Castelvolturno, vers Naples.
Che per noi,
pour nous, c'est l'Afrique.
Makeba mi ha insegnato.
Et Makeba m'a appris, m'a enseigné.
Che non c'è un'unica strada.
Qu'il n'y a pas une seule voie.
Per resistere.
Pour résister.
La sua musica
sa musique faisait peur à l'apartheid, origine de l'apartheid,
perché invitava a essere
parce
felice.
Qu'elle invitait à être heureux.
Et si elle éduque
à la felicità, elle l'éduque au bonheur,
a combattere qualsiasi forma
tu es un peu éduqué à combattre n'importe quelle forme de totalitarisme.
Oh, it's forbidden for my arms to hold you.
Non, je me souviens pas du jour de sa mort. Je me souviens de l'effet que ça m'a fait.
Kidi Bébé,
je pense,
auteur de Makeba, la reine de la chanson africaine.
Il ne faut pas que ça arrive. Makeba fait partie des gens qui ne doivent pas mourir. Tout simplement parce que, pour moi, Myriam Makeba, c'est la génération de mon père, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans les années 30, et qui, au tournant de leurs 20-30 ans, se sont sentis en responsabilité de changer l'Afrique. Non seulement de changer l'Afrique, mais de changer la vision que le monde occidental pouvait avoir de l'Afrique. Et ils l'ont traduite, cette responsabilité, avec leur art. Voilà. Et Makeba, pour moi, c'est ça. C'est une femme qui a repris, en fait, la grande tradition africaine de se servir de la musique pour absolument tout. Éduquer, informer, pas seulement divertir, mais bien d'autres choses. Et notamment faire savoir au monde, c'est ce qu'elle a fait, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, il y a eu des époques où des gens osaient donner leur vie, en fait. Leur vie, véritablement, quoi. Pour une cause, pour le bien commun. On n'en a plus beaucoup comme ça. Voilà.
J'aimerais un jour m'arrêter sur scène, chanter l'Afrique, mais l'Afrique sans conflit. J'aimerais ça.
Ah, ça, ben la mort de Myriam. Enfin, moi, je l'ai appris, je me souviens, j'étais avec Manu,
Raymond Dombé,
on était à Saint-Jean-de-Compostelle.
Bassiste.
Et on avait un avion tôt le matin. Et mon téléphone, il sonne à 6h30, ou c'est pas bon. C'est jamais bien, quoi. J'ai le cœur qui battait et tout ça. Oh. J'étais vraiment au petit déjeuner, j'ai tout lâché. Et j'ai annoncé la nouvelle aux autres. Donc il y avait Manu, tout l'orchestre, et j'ai annoncé la nouvelle. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appelé sur son portable, parce qu'elle avait un portable orange, et je suis tombé sur son petit-fils, ben, qui m'a expliqué qu'elle s'est sentie mal.
Sur scène.
Je crois qu'elle était sur Patapata, je crois. Elle a abrégé la chanson, à la surprise de tout l'orchestre. Donc elle marchait pour sortir de scène. Elle est tombée là. Entre la scène et la sortie, quoi. Elle est tombée là. Et puis, apparemment, tout s'est arrêté tout de suite. C'est-à-dire que Myriam, elle avait du mal à vraiment s'arrêter, à se dire que bon, là, je prends soin de moi. Non, elle n'avait pas ce truc-là. Il faut qu'elle fasse son spectacle, elle dira. Mais mourir sur scène, c'est pas marrant pour les musiciens qui sont derrière.
Le plus important, c'est de pouvoir retenir son nom, s'en étonner, et puis un jour le croiser à nouveau, et un jour peut-être écouter sa musique, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'elle clignote, qu'on ait un écho d'elle, voilà. Myriam Makeba, ce sera jamais fini parce qu'on l'a fait clignoter, parce qu'on l'a fait encore entendre. I wanna see you sing, I wanna see you fight, cause you are the real beauty of human rights. Elle reste la Mama Africa. En Afrique, c'est ça. J'ai voulu écrire un livre sur elle pour les plus jeunes, en fait, pour les enfants. Moi, j'ai eu envie d'écrire ce livre tout simplement parce que à un moment donné, il faut raconter cette histoire immédiatement contemporaine. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of a thousand more. Makeba, pour les chanteuses africaines et au-delà, c'est la chanteuse incontournable. C'est-à-dire que c'est la référence absolu, et c'est allé au-delà. Je repense à Sylvie Vartan qui a repris Patapata dans une version française.
C'est une chanson qui n'a aucun sens.
Myriam Makeba.
Parce que ça parle de danse, une danse qui s'appelle Patapata chez nous. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Malheureusement pour moi, ce n'est pas une chanson qui which has a deep meaning. I would have preferred another song to be popular than Patapata. Je n'aime pas Patapata.
Patapata is the name of the dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as
Le gimmick du départ, c'est un piano. Et ça m'a vraiment fait un choc. Donc pour moi, c'était vraiment comme un rêve, la première fois que j'ai joué avec elle.
Luther Perrault, pianiste.
Et je trouvais ça merveilleux parce que je viens de l'église. Mon père, c'était un pasteur protestant. Et comme les harmonies, les voix, tout ça, j'ai baigné dedans très petit. Et c'est comme si je me retrouvais en train d'écouter une musique qui allait beaucoup plus loin, mais toujours avec des harmonies. Et elle m'avait dit, si un jour on vient en Martinique, je viens chanter dans le salon de ton père pour lui prouver que moi aussi je viens de l'église. Elle connaissait tous ces gospels. J'étais très à l'aise dans mes débuts chez Maya Makeba parce que on vous imposait pas. On vous imposait pas des partitions chez elle. Il faut s'écouter jouer avec son cœur. Elle veut qu'on joue avant tout avec le cœur.
Quels que soient les fracas, quels que soient les rencontres tumultueuses et problématiques qu'il y a eu entre l'Occident et l'Afrique, l'Afrique a continué à innerver le monde avec sa musique. La musique, c'est la littérature de l'Afrique, quoi. C'est quand même, voilà, c'est l'identité, c'est l'éducation, c'est l'information, c'est la distraction, c'est le dépassement de soi. C'est l'accompagnement pour traverser les difficultés. Enfin, c'est une place énorme, équivalente à celle du livre en Europe.
Native d'Afrique du Sud, je regarde une fourmi et je me vois. Dotée par la nature d'une force bien supérieure à ma taille, ce qui me permet de supporter le fardeau du racisme qui écrase mon esprit. Je regarde un oiseau et je me vois. Et me levant loin au-dessus des injustices de l'apartheid. Je regarde le fleuve et je me vois. Je suis un fleuve dont la source a été oubliée et dont la fin ne viendra jamais.
Donc Patricia Essong, c'est avec ce texte que vous ouvrez la pièce que vous avez consacrée à la vie et à l'histoire de Myriam Makeba. Sa vie et son œuvre se confondent un peu.
Oui, oui.
C'est donc le prologue de l'autobiographie de Myriam Makeba.
C'est ça. Bah, en lisant ça la première fois, honnêtement, j'ai de la chair de poule, j'ai eu plein d'émotions qui me sont passées, parce que déjà j'ai trouvé ça très poétique. Ça dit qu'on prend énormément de recul par rapport à son histoire, et j'ai trouvé ça beau en fait, vraiment très beau. Elle regarde une fourmi, elle se voit, elle a des éléments d'identification qui ne sont pas uniquement humains, on va dire. Enfin, elle s'identifie à tout. Il n'y a pas une espèce de classe ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est magique et il y a aussi cette dimension un peu spirituelle de la chose, c'est que elle n'exclut rien. Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau. C'est pour ça que ça fait passer. C'est vraiment comme ça que j'ai voulu introduire la pièce, parce que ça disait déjà tout humainement qui elle représente, en fait.
Je n'ai pas été à l'université, mais j'ai du bon sens. Je l'ai tété au sein de ma mère.
Human sister Myriam Makeba.
En fait, je suis chanteuse. Je suis chanteuse. Je ne suis pas comédienne. Et la comédie ou le théâtre arrive parce que il fallait absolument faire quelque chose pour Myriam Makeba. J'ai voulu savoir un peu plus sur la vie de Myriam Makeba, mais en tant que femme, pas vraiment en tant qu'artiste, parce que en tant qu'artiste, on a un répertoire, elle a laissé un héritage culturel et musical énorme, mais moi, en tant que femme dans l'industrie musicale, j'ai toujours voulu savoir qui était-elle en dehors de ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire Mama Africa, l'apartheid, enfin voilà, la femme activiste, etc. Mais qui était-elle quand on baissait les rideaux ?
Here we are.
Ivanga la shona ndola la pina. Ivanga la shona ndola la pina.
Goli, mon amoureux, s'est toujours conduit comme un policier, même en dehors des heures de travail. Les policiers noirs n'ont pas une vie facile. Ils ne reçoivent pas d'armes, seulement une matraque et des menottes. Ils ne sont pas autorisés à arrêter un blanc, par exemple. Quand un policier noir surprend un blanc en flagrant délit, il doit attendre l'arrivée d'un autre policier blanc. Le plus triste et le plus choquant de tout, c'est la cruauté avec laquelle les policiers noirs traitent leurs frères noirs. Ils leur tapent dessus et les harcèlent sans pitié. Être policier est l'une des rares responsabilités confiées à un noir dans notre pays. Mais c'est dur d'appartenir à une institution à laquelle vous ne pouvez jamais vraiment appartenir. Je rampe jusqu'à mon bébé. Elle saigne du nez et de la bouche. Je la prends et je m'enfuis dans la nuit. Sa famille est là, à me regarder silencieusement. Ils ont entendu mes cris. Ils se demandent ce que j'ai fait pour être battue. Quoi qu'il en soit, ils pensent que je l'ai bien mérité. Je ne sais pas quoi faire. Mon bébé dans les bras, je cours vers le commissariat de police. Ah mais j'ai oublié, c'est là que Goli travaille. Je m'en rends compte en entrant. Je meurs de peur qu'il ne l'appelle pour lui dire de venir me chercher. Mais quand je les supplie de ne pas le faire et quand ils voient combien le bébé et moi sont mal en point, ils appellent un taxi pour m'amener à l'hôpital. Bongui et moi, ils sont traités et puis nous partons. Je suis soulagée de voir que mon bébé n'a rien de grave. Je n'ai pas en sous, mais je prends un taxi pour rentrer chez moi. Dans la concession de ma grand-mère à 25 km, ma mère est déjà de retour et puis j'ai hâte de les retrouver. Je ne suis plus jamais retournée chez Goli.
Myriam Makeba, elle représente vraiment le sort des femmes du temps de l'apartheid.
Jacqueline de Reims, vous étiez militante de l'ANC pendant l'apartheid. Vous êtes auteure de nombreux livres sur l'Afrique du Sud et notamment Femmes d'Afrique du Sud. Myriam Makeba, elle, ce qu'elle écrit, ce qu'elle raconte dans sa biographie, c'est bien sûr beaucoup le sort des femmes. Et elle raconte par exemple que lorsqu'elle découvre son mari qui la trompe avec une autre, qui s'avère par ailleurs être sa sœur, eh bien, c'est elle qui est battue à ce moment-là.
Eh bien, évidemment, parce que il ne faut pas oublier quand même qu'une femme noire n'avait aucun droit. De toute façon, une femme ne vaut rien, 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 rien du tout. Et c'est dans une société qui a donc 300 ans d'esclavage, où on vous explique qu'il faut classer les gens dans une hiérarchie, que tout en haut de la hiérarchie, vous mettez l'homme blanc, et que tout en bas de la hiérarchie, vous mettez la femme noire. La femme noire ne vaut rien. Donc, si elle ne vaut rien, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est ça qui, je pense, qui taraude toute la société sud-africaine.
On déroule toujours un petit peu la vie de Myriam Makeba en miroir avec celle de la future nation arc-en-ciel, en miroir avec celle de l'Afrique du Sud. Elle se retrouve donc en prison à 18 jours parce que sa mère a trafiqué, a brassé de la bière artisanale.
Il y avait plein de femmes comme ça qui se retrouvaient en prison pour avoir brassé de la bière. Bien sûr, il y avait les bébés, on demandait les bébés aller avec leur mère, voilà. Parce que ça, c'était, je veux dire, la prison banale. L'apartheid a eu cet effet dramatique sur la société sud-africaine, c'est de casser les structures familiales. L'enfance de Myriam Makeba, c'est une enfance typique d'un enfant noir au temps de l'apartheid, absolument. Myriam Makeba a connu dans sa chair le système d'apartheid et c'est bien pour ça qu'elle s'est battue très jeune contre...
Je suis d'une famille très pauvre, on n'avait rien. Mon père est décédé quand j'avais 6 ans. Ma maman travaillait comme une bonne dans les familles de blancs pour pouvoir nous envoyer à l'école. Et parce que ma maman était fatiguée, j'ai cessé d'aller à l'école pour pouvoir l'aider à travailler pour notre famille.
Et vous avez travaillé donc très jeune?
Oui.
Chez nous, il naît une nouvelle danse toutes les semaines. les couples viennent s'exhiber sur la piste de danse. Mais ils ne sont pas les seuls à s'y montrer. Les gangsters fréquentent les clubs. On m'a prévenu que ce n'était pas des maisons d'enfants de cœur. Il y a des bagarres, des fusillades, des coups de poignard. Certains de nos spectacles se transforment en émeutes. C'est très dangereux. Ce sont les gangsters qui font la loi. Les Noirs ne sont pas autorisés à boire de l'alcool, mais ces hommes entrent, s'assoient au premier rang et sortent leurs bouteilles. Ils les posent sur la table, puis ils sortent leurs armes. Et les mettent sur la table aussi. Il y a un autre phénomène, c'est qu'on prend les films au pied de la lettre. Et on joue en ce moment un film avec Richard Widmark, dans le rôle d'un voyou, qui s'appelle Styles. Je chante dans la commune d'Alexandra. C'est un club qui a une très mauvaise réputation. De la scène, je vois tous ces gangsters alignés. Ils sont là, les pieds sur la table, et me regardent. Je comprends bien qu'ils me veulent comme poupée. Et je m'inquiète. Qu'une fille les aime ou pas, ça leur est égal. S'ils la veulent, ils la prennent.
Alors sur cette photo, Jacqueline Dérance, c'est une photo donc qui date de 1955. On pourrait penser que Myriam Makeba est une chanteuse américaine, presque.
Absolument. À cette époque-là, si vous voulez, c'est le jazz qui est libérateur. Chanter du jazz américain, c'était vraiment se révolter contre l'état des choses en Afrique du Sud. Donc, voilà. Et c'est bien pour ça qu'elle a chanté. Sa musique, au début, était très jazz. Et puis après, va s'imprégner de beaucoup plus d'influences proprement africaines. Et là, Myriam Makeba est magnifique, hein, avec une robe extrêmement décolletée, voilà. Tout est travaillé.
Sa robe est très moulante, d'ailleurs.
Une robe très moulante, bien sûr, hein. Donc, voilà. En fait, j'imagine qu'on peut très facilement déshabiller Myriam Makeba sur cette photo. On peut enlever la robe, très facilement.
Cette petite robe, vous l'avez portée aussi ?
Oui, oui. Oui, oui, j'ai cherché. Elle est lumineuse. Donc, pendant un moment, elle a manqué de confiance en elle. Elle était persuadée d'être moche, en fait. À son adolescence, elle se trouvait pas belle. Et comme elle était un peu chétive, donc elle se sentait disproportionnée. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que, encore une fois, cette image voit l'itinéraire d'une femme qui s'assume complètement. De toute manière, quand on a des cheveux courts, surtout à cette époque-là, et même encore jusqu'à présent, de porter des cheveux naturels, c'est un acte politique. Oui, oui, parce que comme elle le disait, c'est que on encourageait à défriser les cheveux, à se blanchir la peau. En fait, elle incarne tout simplement déjà à l'époque la femme moderne. En fait, elle est libre. Myriam, elle osait tout. Elle portait aussi bien des tenues modernes que traditionnelles. Elle osait tout.
Puis elle a ce visage aussi. Son visage, c'est une Mater Dolorosa. elle ne sourit pas, bien sûr. Elle ferme les yeux. Elle a le visage un peu tourné vers le ciel. Et c'est ça qui est assez saisissant dans cette photo. C'est ce corps qui est magnifique, c'est un corps de jeune femme, hein, et cette tête quand même qui est marquée par la souffrance.
C'est ça en fait aussi Myriam Makeba, c'est les up and down, mais elle est là. Et c'est beau parce que je me retrouve dedans, je me retrouve dans cette petite Africaine qui a des valeurs, on a inculqué une espèce de tradition, qui grandit avec tout ça, mais qui, adulte, se libère d'un certain nombre de choses, parce qu'elle s'aime, parce qu'elle choisit la vie, et toute sa vie, elle a toujours choisi de vivre, et vivre, et elle a donné, et d'ailleurs, elle décède sur scène, en sortant de scène, c'est-à-dire, elle donne, mais elle sait également qui elle est. C'est fort, hein. Pour moi, je peux faire une thèse sur Myriam Makeba, en fait.
C'était quand vous voyez les gens qui vous racontent cette période-là, qui ont vécu ça, vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Donc à partir de 6h du soir, vous êtes noir, il y a des rues, vous ne pouvez plus marcher. Couvre-feu. Le moins de cambriolage à la ronde, à 10 km à la ronde, c'est vous qui payez le pot.
Hey, won't you come in and be my guest? My house.
C'est une valise, plein de photos de la plupart des tournées que j'ai faites avec Myriam Akema. Ça c'était en Italie. Et voyager dans les pays où je ne pensais jamais y aller. Le stade Maracana, il y avait le pape Jean-Paul II. Là, on était en Californie. Ouais, ce type-là, il a la tête de Mandela. Et ce tableau, celui-là, pareil, cette peinture-là, j'ai demandé à Myriam ce que ça représentait. Elle m'a dit que ça devait représenter.
Raymond Doumbé.
Sophia Town. Sophia Town, c'est le dernier quartier qui est resté à Johannesburg à l'époque où le régime de l'apartheid a commencé à détruire. Beaucoup détruits, hein. Ils ont chassé tous les Noirs de la ville, hein. C'est à cette époque-là. Et il restait un quartier qu'on appelait Sophia Town. Et Sophia Town, c'est un quartier où il y avait tous les clubs de jazz, il y avait tous les tripots, les bordels, les bars, les boîtes de jazz et tout ça. Et c'est dans ces endroits-là que Myriam a chanté à l'époque. Il y avait des boîtes de jazz et des musiciens qui jouaient à la Charlie Parker et tout ça. C'était un peu comme le village. Aux États-Unis, c'était un peu quelque chose comme ça, façon sud-africaine, quoi. Sophia Town. Et aujourd'hui, disons que ça n'existe plus, Sophia Town, mais il y a une rue Myriam Akeba juste à côté. Donc, si vous allez à Johannesburg, rue Myriam Akeba, c'est par là que se trouvait Sophia Town. Elle m'a dit que, cette photo-là, ça lui faisait penser un peu à Sophia Town. De comment c'était à l'époque. Après, c'était un quartier qui était complètement détruit. Mais complètement, c'est-à-dire que les tenants de l'apartheid, ils ont effacé toute la mémoire. Ils ont détruit ce quartier-là qui restait le seul à l'époque où les lois dures de l'apartheid ont été votées. Ce quartier-là, c'était le dernier endroit où les blancs, les noirs, les gens, les métis, tout le monde se rencontrait le soir. Ça se mélangeait, ça faisait la fête. C'était le dernier îlot de liberté. Et ça, c'est bien rien. Et c'est quelques temps après qu'elle a quitté l'Afrique du Sud, justement.
Alors Myriam Makeba quitte Johannesburg en 59. Elle est invitée par le Festival de Venise où elle présente Comeback Africa, un documentaire culte réalisé clandestinement en Afrique du Sud, dans lequel Makeba chante deux chansons. De l'Italie, elle va s'envoler vers l'Angleterre, puis les États-Unis sous l'aide d'Harry Belafonte qui lui ouvre les portes du rêve américain. Elle ne reviendra pas en Afrique du Sud avant 35 ans. Hélène Moctefi, vous étiez amie avec Myriam Makeba et vous viviez à New York pendant ces années.
Ah oui.
En cette fin des années 50, à un moment où le Ghana était devenu indépendant, où la Guinée de Sékou Touré avait dit non à De Gaulle, vous militiez pour l'Algérie indépendante. Comment vous vous sentiez à cette époque à New York?
C'était très beau. C'était très intéressant. Oui, j'avais l'impression que je pouvais traverser les frontières. Et sorti de la guerre, en plus, politiquement, on croyait que le fascisme était terminé pour toujours, qu'on pouvait faire le chemin qu'on voulait.
Est-ce que cette possibilité de rêve américain et de traverser les frontières sociales et culturelles, elle était la même pour les Noirs américains?
Absolument pas. D'ailleurs, on ne voyait pas de Noirs américains travailler en ville, à New York, par exemple, dans les banques, dans les grosses sociétés, même comme vendeurs, on ne voyait pas. Ils se chargeaient de s'occuper des autres, par exemple, les femmes de ménage, etc. C'était une forme d'apartheid. Les Noirs habitaient les quartiers bien à eux et les Blancs un quartier bien à eux. Oui, il y avait une sorte d'apartheid.
À l'époque, comment vous décririez, Hélène Moctefi, le lien entre la musique et la lutte dans ces années, fin des années 50, particulièrement à New York? Vous racontez qu'à l'époque, donc vous luttiez la journée, et puis le soir, vous sortiez, vous alliez écouter de la musique.
Ah oui, je me rappelle, nous sommes allés un soir écouter Myriam Makeba dans un club qui s'appelait Downtown Society, je crois. Et C'était extraordinaire, cette voix inouïe. Je ne sais pas le décrire, mais elle avait deux ou trois voix. Elle avait une voix qui partait d'une langue sud-africaine qui était absolument extraordinaire. Elle était d'une beauté. Elle était une très belle femme. Nous étions tout à fait séduites par elle. Elle chantait les chansons de la libération de son pays et du monde. Elle, Nina Simone, Archie Shepp, des gens comme ça, étaient très conscients de la nécessité de justice et luttaient pour la justice. C'était dans les années 60 que ça, il me semble, que ça vraiment pris dans le milieu du jazz cette nécessité de sortir du ghetto et de pouvoir s'exprimer et de le faire.
À cette époque, on militait la journée et on écoutait du jazz le soir.
Et c'était facile à l'époque d'écouter du jazz. Il y avait beaucoup de clubs et c'était très ouvert. On entrait, on se sentait très libre. Presque chez soi. Et les gens parlaient dans la rue, manifestaient, c'était assez extraordinaire. La nuit à New York était très émouvant. Oui.
On parlait politique?
Oh oui, on parlait beaucoup politique. En fait, on ne parlait que de la politique. On trouvait que le monde était très injuste. On en parlait, on criait même dans la rue. Oui.
I ask you and all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality?
C'est extraordinaire comme déclaration.
I appeal to you. And through you to all the countries of the world.
Et est-ce que c'est à l'ONU?
To do everything you can to stop the coming tragedy. I appeal to you to save the lives of our leaders.
C'était en 63.
To empty the prisons of all those who should never have been there.
Formidable.
Mais c'est le discours d'une militante. C'est encore une très jeune femme. Hein. J'en appelle au peuple du monde entier de nous libérer et de libérer nos leaders. Parce qu'évidemment, en 63, Mandela était en prison et ses autres et ses compagnons aussi. Nous ne sommes pas libres dans notre propre pays. C'est extrêmement fort. Elle résume tout avec cette formule. Les Noirs n'étaient pas libres dans leur propre pays.
Militairement, ils ne pouvaient pas gagner. C'était impossible. Mais ils ont vu tout de suite l'importance de l'international. Alors, ils ont fortement appuyé ce côté de la lutte. Ils essayaient de faire passer des résolutions. Le plus important, évidemment, c'était l'ONU à l'époque.
Since Sharpeville, many terrible things have occurred in my country. Our political parties were declared illegal and the leaders were forced to go underground. Or go into exile to continue the fight from outside.
Elle dit, puisque ma musique est entendue, je vais aller au plus haut ou au plus loin, je vais aller aux Nations Unies, dire qu'il y a un État sur lequel tout le monde ferme les yeux, parce que ça arrange tout le monde, mais où la situation est absolument inique, injustifiable, injustifiée, il faut changer.
That the United Nations should put into
action. C'est très courageux.
The very good resolution.
Elle aurait pu se contenter de faire danser les gens.
Calling for a complete boycott on South Africa and especially.
C'est très impressionnant et très émouvant.
The sending of arms by outside powers to South Africa.
C'est du cœur, on le sent venir de fond d'elle-même. Hein. C'est magnifique.
People, men and women.
Très impressionnant.
And even children are now in jail. Nelson Mandela. Mrs. Lillian Ngoyi, and only last week, Mr. Walter Sisulu and others were arrested. These people must be released at once.
I am certain nobody can liberate his people when he is in a prison cell or concentration camp.
Il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui faisaient de telles déclarations et qui allaient jusqu'à l'ONU quand même.
Oui, elle était exceptionnelle. Hein? Elle avait été très rapidement réussi à se placer dans le milieu du chant et du cabaret, etc. C'est assez étonnant parce qu'à l'époque, c'était pas une chose courante.
C'est étonnant.
Oui, c'était une femme étonnante. Elle, c'est une femme sûrement qui a eu plusieurs vies.
Nelson Mandela, Mrs. Lillian Ngoyi, Mr. Walter Sisulu. These people must be released at once.
This song was, I was told to sing by Miriam Makeba.
Pendant son séjour aux États-Unis, Miriam Makeba a eu plusieurs vies. Après la confiscation de son passeport sud-africain, elle se réinvente à New York et en Californie. Elle devient très amie et très proche de personnalités engagées comme Marlon Brando, Liz Taylor, bon, bien sûr Harry Belafonte, et aussi très amie avec Nina Simone, avec qui vous aviez joué aussi, Luther Perrot.
Oui, Nina Simone, elle a eu des moments assez graves dans sa vie. Hein. Quelle sorte de scène, c'est la première personne qu'elle appelait. Elle lui disait comment ça s'est passé, tout ça.
Et pourquoi, à votre avis, Nina Simone et Miriam Makeba étaient amies?
Elles ont vécu des choses assez similaires au niveau de l'apartheid, parce qu'elle a vécu l'apartheid aux États-Unis. Hein. La seule chose que je sais de la bouche de Miriam, je sais que Nina Simone s'est fait mettre dehors de chez elle. Après, on est bien tabassé dans la rue avec des petites chaussures et une robe d'été. En plein hiver, et c'est Miriam qui l'a recueillie. Elle n'a jamais vraiment été heureuse, elle me le disait. Sa vie, c'était la musique, c'était ce qu'elle défendait. Donc, ce sont des femmes qui ont vécu pour ce qu'elles défendaient. Donc, leur vie de tous les jours, il faut faire les passes dessus un petit peu. Elle m'a aidé puisque moi j'ai eu beaucoup de douleurs sentimentales et à ces moments-là elle m'expliquait sa vie et elle disait c'est notre vie d'artiste, ne vois pas ça comme quelque chose de négatif, prends sur toi et sache qu'en tant qu'artiste tu te dois à ton art.
Après deux mariages, Miriam Makeba retombe amoureuse d'un homme, ou plutôt d'une panthère noire, un rebelle avec une cause noire, qu'il résume en inventant l'expression « Black Power » en Amérique.
We're not going to win it tomorrow. This is a struggle. This is a long struggle. We're fighting a struggle that has been taking place for 500 years and even way beyond that. We're just a small part.
Makeba en exil épouse donc Stokely Carmichael dans la résidence de l'ambassadeur de Tanzanie à New York. Ils deviennent très vite la cible du FBI. Les disques de Makeba sont boycottés et Stokely bouscule le panafricanisme.
Stokely Carmichael, en fait, je l'ai rencontré à La Havane en 1967. Il était l'invité d'honneur de Fidel Castro, très écouté. C'était un bel homme. Il était très beau et il était habillé tout en blanc avec des lunettes de soleil. Il était très militant et il croyait que les peuples de couleur, les peuples noirs, les peuples bruns, les peuples jaunes allaient être victorieux et aller vite prendre en main le monde entier. C'était un discours merveilleux à écouter et les 150 journalistes qui étaient surtout du monde occidental l'ont vachement applaudi. Hein? Ils étaient très séduits par lui, moi aussi.
We have to find what our mission is, what the mission of this generation is, and do that, and do it perfect, properly, correctly, thoroughly.
Il est venu en Algérie, il est resté un certain temps. Et puis, il est parti en Guinée, En Guinée, il a rencontré Myriam Makeba. Il a dû avoir un coup de foudre. Et elle représentait l'Afrique, la lutte. Je comprends qu'il a été très séduit. Et Stokely, finalement, est resté en Guinée. Il s'est installé là-bas, définitivement, jusqu'à sa mort en Guinée.
Donc j'ai rencontré Stokely Carmichael en Guinée. Mm-hmm. J'ai passé une soirée avec eux. Et puis à un moment, j'entends Myriam Makeba qui dit à Stokely, de toute façon, tu ne connais pas la politique comme moi je connais la politique. Il a commencé à rigoler. Je revois son... Elle, et puis elle a dit, oui, je connais la politique plus que toi. Il était en train de rigoler. Mais c'était quelqu'un de vraiment... Ouais, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Il avait une présence. Il avait une présence. Un charisme, pas possible. Tout en étant très gentil, quelqu'un de très simple. Il s'affrontait tout le temps. Il disait ce qui le plaisait. C'est un personnage. Vous savez qu'à un moment, ce monsieur, il pouvait même partir aux États-Unis.
Sister Myriam Makeba Carmichael.
Really great.
Probably everybody wants to know how Stokely is.
He's well, he's alive and well in Conakry.
Do you see any difference in, say, the way that this government, let's say dealing with the government, the way that this government approaches you as a black African? You
know, I always say the only difference between South Africa and America is very slight. in that
USA,
South Africa admits that they are what they are.
You have a couple of children.
I have one child. She's 20 and she has two children. Her name is Bongi.
Our next song was written for us by my little girl, who's not so little anymore. She's named Bongi. She wrote the song about a great man. I say a great man because it was a black man who fought for liberation, for the liberation of black people. Ladies and gentlemen, Malcolm X.
Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. To that man over there who brought about a new generation.
Elle a connu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, mais ça, c'était la mort de sa fille, c'était le plus dur.
Le plus dur, le plus dur. Et puis elle a perdu son unique fille. Hein.
Luther Pérou.
C'était le plus dur. C'était sa fille unique. Et quand elle a perdu sa fille, qui est morte d'une fausse couche, elle revenait, elle a tout juste pu faire l'enterrement. Elle est arrivée à Roissy, je ne vais jamais oublier ça. Je ne savais pas quoi lui dire. Il fallait qu'on parte. Parce que c'était un très gros contrat. Pour l'Indonésie. 22 heures d'avion. Et on nous a dit, oui, l'organisme qui vous fait ça, ils vont être très connus bientôt. Une marque de basket, ils font la promotion en Indonésie. Vous savez, c'était quelle marque ? Nike. C'était pour Nike. C'était le début de Nike, hein, je ne sais plus, les années 80. Là, hein.
Quand chez vous, on disait, quand chez les bébés, on disait, tiens, Myriam Makeba vient dîner, qu'est-ce qui se passait ?
Ma mère faisait un bon dîner, voilà. Très, très... avec beaucoup de choses. Enfin, elle y mettait du temps. Je crois que c'était un signe que c'était important, quand même.
Qui dit bébé ?
J'ai vu une très jolie dame, très joliment coiffée et tout, mais j'ai surtout vu... j'étais plus impressionnée de me dire, c'est donc elle, cette grande dame, et de l'avoir mangée à table chez mes parents que de... Je ne lui ai pas parlé, quoi. J'étais beaucoup trop intimidée. Oui, j'étais intimidée. Voilà, c'était un nom quand même. Voilà, je vivais dans une famille un peu particulière où on voyait beaucoup d'artistes et de créateurs parce que mon propre père était lui-même artiste et créateur. Et donc, c'était un milieu, c'était un peu... je l'ai compris plus tard, hein, je ne l'analysais pas comme ça, mais les années 70-80, pour moi, c'est des années d'une sorte de... que je vivais comme une sorte de bohème de mes parents. Alors que c'était loin d'être ça, en fait. C'était des années d'énorme travail, de réédification de cette culture africaine qu'il s'agissait de porter à la connaissance du monde d'une autre manière que la façon dont le monde colonial l'avait présenté. Donc moi, je voyais ça du point de vue de la fillette, et je voyais toutes sortes de gens intéressants qui parlaient, qui refaisaient le monde. Voilà. Donc Myriam Makeba, elle vient incarner ça, c'est-à-dire... Et c'était donc toucher du doigt. Du coup, j'ai pas osé la toucher. Évidemment, j'ai pas osé lui parler non plus, mais c'était voir, voilà, une icône de cette période-là.
Ici, c'est en Namibie, là. On était en Namibie, c'est le marché central. Et ça, c'est Myriam devant le mausolée de Kwame Nkrumah, en Ghana.
Donc elle se prosterne, elle dépose des fleurs.
Ah oui.
C'était quelqu'un qu'elle a connu, d'ailleurs.
Ah oui, elle les a tous connus, ces gens-là. Tous.
Raymond Dombé. Nkrumah, c'était le président du Ghana, indépendant.
Voilà, exactement. Elle a rencontré tout le monde, même les Mobutu. Donc elle connaissait Myriam, elle était, et je me souviens même à l'époque, elle disait qu'elle était reçue par Kennedy et son frère. Tous ces présidents-là, tous ces gens, et personnalités des années 60, là, africaines, et qui étaient émergentes et tout ça, elle les a tous rencontrés.
Tous les présidents africains?
Tous. Elle a rencontré tous les extrêmes. Elle les a rencontrés parce que, bon, ben voilà, vous savez, moi je me souviens, on était au Soudan. Il y avait la réunion des chefs d'État africains. Mais alors, c'est-à-dire qu'ils sont tous passés après lui dire bonjour à Myriam. Voilà, parce qu'ils connaissaient. Ils étaient tous là. Bongo, il y avait Mugabe. Mugabe, c'était le plus impressionnant. Oh mon vieux. C'était le plus petit de taille. Et je me souviens, je serrais la main de El Béchir, le président de Soudan. Je me suis dit, oh là là, celui-là. Vraiment, c'était. Le pire des pays que j'ai visité, moi, le Soudan. Franchement, j'ai pas trop aimé.
Qu'est-ce qu'elle disait de ses amitiés présidentielles, parfois avec des personnalités peut-être un peu troubles? Qu'est-ce qu'elle vous en disait, Myriam Makeba, de tout ça? Vous en parliez?
Non, elle disait pas vraiment. Non, elle n'en parlait pas vraiment. C'est-à-dire, elle n'en pensait pas moins. Mais, mais je pense qu'on n'en parlait pas vraiment. On n'en parlait pas. Elle faisait attention quand même. Parce qu'elle se disait, oui, j'ai mes petits-enfants et tout ça, que je connais tellement de choses que je commence à la raconter. Mes petits-enfants, ils vont être pas très bien. Et puis, Myriam, c'était une parole libre. Des fois, oui, il y a des choses qu'elle n'aimait pas de telle ou telle personne. Elle le disait. Oui, ouais, des fois, elle pouvait se plaindre que Mandela n'en fasse pas assez ou tout ça. Elle pouvait, oui, bien sûr. Mais elle n'était pas la seule. Hein.
C'était pas en public.
Ouais, voilà. Non, ce n'était pas en public. Je pense qu'en public, elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais fait. Des fois, elle disait des petits mots comme ça, du genre, oui, celui-là, mais sans plus, quoi.
Oui, c'était quand même pour aller jouer pour le peuple. Donc, elle ne pouvait pas tout le temps refuser. Et à partir du moment où il y avait le peuple, elle voulait voir le peuple. Donc, elle y allait. Bon, il y avait quand même la séparation. Hein. Il y avait le gratin devant. Et puis les autres derrière avec tous les flingues et les fusils derrière. Mais bon, c'est... Moi, j'aimais pas trop parce que ça faisait bizarre de jouer et puis voir des hommes en armes comme ça tout autour de la scène. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Pour moi, j'ai compris après pourquoi elle disait « Je ne fais pas politique, je ne fais pas de politique, je dis la vérité. »
Quand Mandela est sorti de prison, elle est allée en Afrique du Sud, elle a eu un visa de 6 jours qui était donné par les anciens administrateurs sud-africains, c'est-à-dire que les gens de l'apartheid qui étaient encore là, ils lui ont dit, vous pouvez venir, mais 6 jours. Donc elle est rentrée 6 jours en Afrique du Sud, après 35 ans. Elle est revenue à Bruxelles, et puis après, quand les choses ont commencé à vraiment se calmer, elle a vendu sa maison de Bruxelles, elle est rentrée, elle s'est installée là-bas. Ça n'a pas mis plus d'un an. Elle ne pouvait plus vivre en exil comme ça 35 ans. Elle est rentrée vite. C'est-à-dire que c'était un ouf de soulagement pour elle de rentrer. 35 ans, c'est énorme. Non, je pense qu'elle était vraiment bien contente de rentrer. Et ça n'a pas empêché, de garder les mêmes contacts, de faire des concerts à l'étranger. Ça n'a absolument rien changé. parce que je me suis on a fait une tournée aux États-Unis en 94. C'était juste avant les élections sud-africaines. Donc c'était, on appelait ça la tournée de l'espoir. Il y avait eu Masekela.
Trompettiste.
Ouais, et Myriam. On a fait toutes les villes américaines, toutes les grandes villes, toutes. Et c'était une tournée qui se terminait juste le jour des élections présidentielles en Afrique du Sud. Et je me souviens, Myriam, elle votait pour la première fois de sa vie à New York. Et donc, je me souviens, quand ils sont allés, elle allait voter à New York, vraiment le retour, c'était des larmes. Parce que c'était vraiment le début de quelque chose, quoi. C'était émouvant, quoi. Et donc, c'était évident que Mandela allait remporter les élections. Mais bon, voilà, il y avait encore une petite peur, quoi, si je peux dire. C'est le début de quelque chose, ouais. Ouais, c'était ça.
Nelson Mandela, Mrs. Lillian Ngoyi, Mr. Walter Sisulu. These people must be released at once.
Même au tout début, j'ai pas honte de le dire, à son premier concert, qu'elle a dit au public, oui, je chante pour qu'on dise, qu'on délivre mon frère Mandela, je ne savais pas encore très bien qui c'était. Et c'est après avoir parlé avec elle, parce qu'elle m'a appris à comprendre la politique autrement. Donc même si beaucoup de gens l'apprenaient pour une révolutionnaire, elle a toujours été quelqu'un qui agissait avec son cœur. Et c'est ça qui m'a plu en elle. Et lorsque Mandela est sorti de prison, c'est la Suède qui l'a officiellement invité. On lui a dit voilà, qu'elle avait eu le rendez-vous. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tu viens avec moi voir. Elle l'a appelé d'une certaine façon, je ne veux pas dire. Mais elle me faisait attention à ce qu'elle disait au téléphone, parce qu'elle était surveillée. Je n'ai pas peur de le dire, c'est elle qui me l'a dit, elle était surveillée. Donc mon plus gros souvenir, comme je vous dis, c'est d'avoir rencontré avec elle Mandela. Et tous les chefs d'État l'ont rencontré. Et comme ils voulaient tous le voir, ils ont... En gros, ils faisaient un quart d'heure, 20 minutes avec eux. Et Myriam Makeba, il nous a reçu une heure et demie. Avec le champagne et tout. Il n'arrêtait pas de la remercier pour tout le travail qu'elle avait fait.
Ah, ça m'a fait un truc. Hein.
On est allé avec elle à Soweto, je me rappelle. Elle nous a fait à manger sur les pierres, comme nous, ils ont dit, en Afrique. Elle a dit que ça représente beaucoup pour elle de retourner chez elle et de pouvoir faire ce qu'elle a toujours fait à Soweto.
Comment vous avez trouvé Soweto quand vous êtes allé chez Mandela?
Comment j'ai trouvé Soweto? C'est-à-dire que je m'attendais à ce que ce soit un quartier. Mais c'est une ville. Ce n'était pas un ghetto comme la plupart des ghettos africains ont construit un peu n'importe comment. Là, c'était construit de façon scientifique et militaire pour pouvoir mater les gens. Comme un camp, quoi. C'était comme un camp, Soweto. Ça va être la première fois. C'est incroyable. C'est énorme.
Vous étiez allé chez elle. Vous pouvez décrire un petit peu comment c'était chez elle?
C'était dans une banlieue de Johannesburg qu'on appelait Onedio. Un endroit très résidentiel. Très résidentiel. C'était un quartier blanc. Où il y a très peu de gens qui marchent dans la rue. Et chez Myriam, je sais qu'elle avait un pistolet sous son oreille. Ouais, elle m'a montré son pistolet. Ouais. Et sa chambre, elle fermait à double tour. Il y a une autre porte qui était de l'autre côté, qui était fermée. Et la nuit, parce que quelquefois, j'habitais là, parce qu'il y avait de la place. Hein. À l'intérieur de la maison, il y a des alarmes partout. Et toute la maison est entourée de grilles. Elle habitait dans un endroit qui était très, très joli. Des oiseaux magnifiques, parce qu'en Afrique du Sud, il y a des oiseaux. C'est un pays magnifique. Hein. La nature, elle est vraiment généreuse. Un endroit super bien, mais où, à midi comme le soir, il faut tout le temps fermer les portes.
Et lorsque Myriam Makeba revient en Afrique du Sud, elle revient vivre en Afrique du Sud, elle se retrouve à nouveau d'une certaine façon prisonnière parce qu'elle est dans une belle maison derrière des barreaux, en fait.
Mais le problème, si vous voulez, c'est que, effectivement, quel est le modèle de la belle vie? Le modèle de la belle vie, c'est un modèle occidental. Donc comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de ressentiment quand vous avez une société qui est la plus inégalitaire au monde?
Et elle, Myriam Makeba, comment elle vivait ça? Comment elle vivait du coup ce retour un peu dans une prison dorée, d'après ce que vous décrivez, Raymond Dombé?
Bah, ben, c'est résigné à ça. C'est, ben, après, je pense que ça n'empêchait pas de vivre, parce que, bon...
J'en ai vu d'autres, mais...
oui, je pense qu'elle en a vu d'autres. Ça n'empêchait pas de vivre, mais ben, c'était la situation. Mais je pense qu'elle comprenait, hein. C'est-à-dire que politiquement, elle comprenait très bien tout ce qui s'est passé. L'apartheid, ben, c'était un régime de violence, parce que c'est un régime qui est né, c'est la terreur. C'est-à-dire que vous terrorisez une partie du peuple, vous les calfeutrez dans les ghettos, et ces gens, quand ils sortent de là, ils sortent au couteau entre les dents. Curieusement, elle était surtout connue par certaines personnes d'un certain âge. Mais il y a toute une jeunesse qui a connu Myriam que par leurs parents. Et que peut-être, elle était considérée comme Maman Africa, un peu la grand-mère. Elle avait un peu cette frustration-là, frustration c'est peut-être un mot fort, quoi, qu'elle n'était pas aussi reconnue dans son pays comme...
Comme elle le devrait.
Oui, comme elle le devrait. Je pense qu'elle avait un peu ce sentiment-là. Et puis que l'Afrique du Sud, c'est aussi beaucoup de jeunes. Hein. C'est un pays jeune, c'est un pays africain, donc c'est un pays où il y a énormément de jeunes. Après, les jeunes, c'est comme ici, maintenant ils sont dans le rap, tout ça. Si une certaine jeunesse, c'est pas une musique qui les intéressait vraiment.
Ah, si, si. Et je pense à elle, oui. Même quand j'écris, même quand je compose, je pense. Et je pense qu'on est beaucoup d'Africains à penser à elle. On pense vraiment à elle.
Est-ce qu'il y a une chanson qui résonne particulièrement pour vous, qui oui. vous aide, qui vous guide?
Oui, c'est la chanson La Kuchoni Langa, parce que c'est une chanson... Bon, le contexte, on est dans le contexte d'apartheid. À une certaine heure, il y a un couvre-feu. Si le couvre-feu est à sonner, chaque les parents ou bien l'amoureux ne trouve pas sa compagne ou bien son compagnon, eh ben on va soit à l'hôpital, soit on va au cimetière. Donc la chanson, elle raconte, voilà, je te cherche partout, je ne te trouve pas. C'est un peu l'errance. Hein. Et moi, cette chanson-là, quand je suis pas bien, c'est à cette chanson que je pense, et donc je pense à Myriam Makeba, et je me retrouve parce que je cherche la vérité. Je cherche une vérité, je cherche des réponses, et cette chanson-là m'aide. Je peux la chanter, si vous voulez. La Kuchoni Langa Zakubu Ingomo Daku Tsinga Gawe
La Kuchoni Langa. C'était Myriam Makeba, Les ailes de l'exil, avec La Kuchoni Langa. Hélène Moctefi, Patricia Essong, Luther Perrault, Raymond Dombé, Kidi Bébé, Jacqueline Derance et les lectures de Makeba My Story, l'autobiographie de Myriam Makeba, lue par Patricia Essong. Prise de son, Sylvain Latu, mixage, Olivier Dupré, Toute une vie, coordination, Christine Bernard, attachée de production, Daphné Abgral, stagiaire Maud Jussaume et Juliette Drone. Un documentaire d'Elodie Maillot, réalisé par Manouchak Fachaï.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission quand vous le voulez sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Juliette Drone. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.